Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
De la France à l'Europe de l'Est, sommes-nous face à un nouvel antisémitisme ? Nous sommes en compagnie de l'historienne Annette Viviurca. Vous êtes l'auteur notamment de 1945 à la découverte, ou le moment Eichmann publié aux éditions Albin Michel. Vous avez signé cet appel qui a été publié par Le Parisien. Aujourd'hui en France, un manifeste contre le nouvel antisémitisme. À côté de vous se trouve l'historien Jean-Yves Potel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes entre autres l'auteur de l'ouvrage La fin de l'innocence, la Pologne face à son passé juif, publié aux éditions Autrement, car aujourd'hui on assiste donc à ce débat en France autour de l'antisémitisme, un nouvel antisémitisme, parce qu'on considère que cet antisémitisme, il existerait chez certains musulmans, il serait la conséquence notamment de l'existence de l'État d'Israël et de la manière dont celui-ci aurait influé sur les stéréotypes anti-juifs. En Pologne, la situation est différente. Quelle est-elle, Jean-Yves Potel?
On pourrait prendre un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez aujourd'hui la libération d'une parole antisémite qui est très forte, que l'on voit dans la presse, que l'on voit dans certains médias, que l'on voit également dans la bouche de certains hommes politiques, et même des gens du gouvernement. Un antisémitisme qui est, lui, très traditionnel, qui reprend les vieilles thématiques que l'on avait déjà entendues dans le passé en Pologne, où il y a une vieille tradition antisémite. Et puis, en même temps, vous avez cela, et je dis pas en même temps pour être à la mode, en même temps, vous avez, au même moment, des énormes manifestations, ou disons colloques, discussions, interventions à la radio, à la télévision, autour de l'anniversaire de mars 68. Mars 68, ça a été la première grande campagne antisioniste, antisémite d'un pouvoir politique en Europe, et qui s'est traduit par l'expulsion d'à peu près 13 000 juifs de Pologne, un peu plus, 13-14 000, on ne sait pas, et où on a utilisé toute cette rhétorique antisémite, antisioniste, pour lutter contre les opposants, pour affirmer une fraction de l'appareil du parti, bon, et que je passe là-dessus, mais dans les commémorations qui ont lieu aujourd'hui en Pologne, qui ont eu lieu, vous avez eu un décryptage détaillé sur la manière dont on utilise les stéréotypes antisémites pour stigmatiser des opposants. Donc vous avez ces deux moments. Alors ça ne veut pas dire le deuxième n'excuse pas le premier, bien sûr. Mais ça montre qu'aujourd'hui, dans la société polonaise, vous avez, et dans le pouvoir politique polonais, vous avez une situation contrastée. À quoi j'ajoute que si vous prenez le point de vue actuel du pouvoir polonais, je ne pense pas que le pouvoir polonais aujourd'hui s'est lancé dans une campagne antisémite. Il s'est beaucoup plus lancé dans une campagne nationale, nationaliste, xénophobe souvent, de la fierté.
Xénophobe anti-musulmane.
Anti-musulmane, avec la fierté nationale au centre de tout cela. Et dans cette campagne-là, tout à fait, ce qui renvoie au débat précédent, dans cette campagne-là, le pouvoir s'affiche et souligne son amitié et ses liens avec Israël.
J'ai choisi de parler de la Pologne, Jean-Yves Potel, parce que la Pologne est emblématique de ces pays de l'Europe de l'Est, où pendant un certain temps l'antisémitisme a été, semble-t-il, moins présent, et aujourd'hui on le voit ressurgir. On pourrait parler aussi de l'Autriche, on pourrait parler également de l'Allemagne, où aujourd'hui l'équivalent du CRIF allemand suggère aux juifs observants de ne plus porter de kippa. Était-ce un effet de perspective que cette disparition de l'antisémitisme en Pologne, ou bien y avait-il véritablement un moment où le sentiment anti-juif était moins répandu ?
Non, il y a en Pologne, et il y a toujours eu, et s'est maintenu, une sorte d'antisémitisme populaire qui existe notamment à la campagne, mais pas que dans la campagne, dans les villes aussi. Mais en même temps qu'il y a cet antisémitisme populaire, il est exact que ces 25 dernières années, et le livre que vous avez cité passe et analyse ça en détail, il est exact que pendant ces 25 dernières années, vous avez au contraire une prise de conscience en Pologne, une multiplicité de prises de position, un travail commémoratif, un travail éducatif autour de la condamnation de l'attitude des Polonais, autour de la reconnaissance du passé juif de la Pologne, qui fait que ça a été vraiment un des travaux de mémoire les plus riches qui sont eues en Europe depuis la guerre. Avec ce qui s'est passé en France, ce qui s'est passé en Allemagne, on dit toujours que la Pologne est un des pays qui a le plus travaillé. Et ça existe toujours, c'est toujours là. Jusqu'à présent, on n'a pas encore fermé le musée Pauline à Varsovie, même si on vous aimerait bien. On n'a pas encore expulsé...
Qu'est-ce que c'est le musée Pauline ?
C'est le grand musée d'histoire des Juifs de Pologne qui existe, qui était construit à Varsovie, qui est un énorme musée, qui raconte l'histoire des Juifs depuis 1000 ans, qui est un monument aussi important que Beaubourg à Paris, par exemple, et qui est très populaire en Pologne, auquel il y a une participation très importante.
Si vous me permettez, j'aurais quand même pointé un phénomène. Vous avez énuméré tous ces pays, il faudrait rajouter la Hongrie, oui. Bien évidemment.
Je prétendais pas être exhaustif,
Non, c'était pas du tout une critique. J'aurais quand même pointé que cet antisémitisme a partie liée avec un nationalisme qu'on pourrait appeler intégral, et que ce n'est jamais isolé. C'est-à-dire que quand il y a de l'antisémitisme, c'est aussi un symptôme. Si on prend la Pologne, ce sont les attaques contre les femmes, ce sont les attaques contre l'avortement. Et il y a un lien qui avait déjà été établi entre antisémitisme, misogynie, et on l'a aussi dans l'islam, et homophobie. Donc je crois que quand on dit qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, c'est pas parce que les juifs sont seuls en cause, c'est parce que l'antisémitisme a partie liée avec un certain nombre de valeurs, c'est aussi des valeurs, qui ne sont pas les nôtres. Et si on ne parle pas de ce nationalisme qui a toujours besoin d'ennemis, donc tous les nationalistes, nationalisme intégral, sont dans le même temps antisémites et d'autres choses.
D'ailleurs, un des grands courants du nationalisme polonais, que tout le monde connaît sous le nom de l'Endecja, c'est-à-dire la démocratie nationale, était un nationalisme antisémite, sur le fond. Et aujourd'hui, vous avez des groupuscules qui se reconstituent autour de cette idée.
Et qui ne sont pas que les paysans ignorants.
Non, ils ne sont pas que des paysans ignorants, qui sont des jeunes notamment, qui ont reconstitué. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces groupes reprennent le flambeau de groupes de phalanges néo-nazis d'avant-guerre et d'après-guerre, et que là, ils reprennent un certain antisémitisme. Et là, on a effectivement ça qui existe aujourd'hui. Mais on est dans un pays qui est quand même très contrasté, où vous avez toutes les possibilités.
Ce qui me fascine, c'est le fait que ce que l'on pensait être terminé, on pensait qu'on passait dans d'autres phases. Ça a été quand même le cas de la Pologne. Hein. On passe ailleurs, c'est un acquis, ou en France. On s'aperçoit que finalement, les choses restent là, qui sont en quelque sorte dormantes, et que, en fonction des modifications de la conjoncture, on a une résurgence de choses qui, en fait, n'avaient jamais disparu.
Alors oui, parce que Jean-Yves Potel, il faut quand même expliquer que la décommunisation de la Pologne s'est accompagnée donc de la construction d'un État libéral, démocratique, et que pendant toute cette phase de construction, l'antisémitisme a été vraiment relégué au second plan. En tout cas, il n'avait plus de traduction.
Enfin, il est réapparu tout de suite. Et puis après, il a été combattu. Et il est combattu, et il y a eu tout un débat, une polémique, il y a eu des prises de position officielles, il y a eu des condamnations, il y a eu des commémorations, il y a un mouvement éducatif, un mouvement dans la jeunesse qui a été très fort, dans les années 90-2000, surtout les années 2000-2010. Et tout ça, ça existe, si vous voulez. Et en réaction de ça, c'est aussi cristallisé et consolidé pendant toute cette période, depuis 89, un courant qu'on peut identifier à, disons, 20-25% pour le noyau dur de l'électorat, qui est un courant qui est xénophobe, antisémite, souvent, et pas toujours antisémite, souvent antisémite, xénophobe, et qui, lui, s'est crispé face à cette prise de conscience dans la société.
Mais alors, ce qu'il y a d'inimaginable, ou en tout cas de difficilement compréhensible, c'est que les Polonais et les Juifs ont été victimes des nazis. Oui. Il y a eu un certain nombre de polémiques, notamment l'installation d'un Carmel à Auschwitz, qui, de manière incidente, ont rappelé qu'à la fois donc, les Juifs ont été victimes de persécutions. La Pologne avant-guerre, c'est 3,5 millions de Juifs, 2,9 millions disparaissent dans la Shoah, sont tués par les nazis. Du côté polonais, il y avait aussi un projet d'élimination systématique des Slaves qui aurait probablement été... Faites l'amour.
Si, il y avait ce projet, pas systématique, mais de réduction de la population.
À terme, disons que les Slaves auraient probablement été exterminés par Hitler. En tout cas, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est un pays où l'antisémitisme revient, alors même que les nazis ont frappé la Pologne et...
Je pense que c'est un peu caricatural, oui, ce que vous dites là, parce que nos collègues polonais, je pense à Jan Grabowski ou à Barbara Engelking, ont étudié tout à fait en détail ce qui s'est passé en Pologne après l'été 42, entre l'été 42 et la fin de la guerre.
44, oui.
Il y a eu ce qu'ils ont appelé la... chasse aux Juifs, et un chiffre qui est peu, qui est discuté, hein, mais dit qu'il y a eu à peu près 200 000 Juifs qui ont été assassinés par leurs voisins polonais, dénoncés pour parfois 3 litres de vodka, 1 kilo de sel, quelques draps qu'ils gardaient. Donc il y a eu cette situation qui existe dans certains pays, d'être à la fois victimes, mais en même temps d'assassiner d'autres victimes.
Oui, mais justement, comment vous l'expliquez, Jean-Yves Potel ?
Comment expliquer ?
Cette ambivalence.
C'est d'abord, ça a été la réalité de la guerre, c'est-à-dire qu'il faut. Mais je pense que vous avez dans la aujourd'hui, par exemple, il y a eu récemment, il y a 3 jours, la présentation au musée Pauline des travaux de cette équipe dont vient de parler Anna Wiewiórka. Et ils ont publié un livre, un énorme livre, avec des monographies région par région, qui s'appelle Dalej Jest, c'est-à-dire après encore la nuit, c'est-à-dire qui montre en détail les mécanismes justement de dénonciation et de peur qui ont entraîné ces assassinats de juifs, cette troisième phase de la Shoah. Ce livre, cette manifestation, il y avait 1000 personnes qui faisaient la queue toute la journée pour entendre ça. Il y a eu des interviews à la télévision polonaise, pas qu'à la télévision privée, à la télévision. Et tout ça fait que vous avez les deux en même temps, vous voyez ? C'est ça que je veux signaler. Et dans ces deux en même temps, ça n'excuse rien, mais ça montre que vous avez un pays qui aujourd'hui est dans une vraie bataille. Et peut-être, ce que pensent beaucoup de gens, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, c'est une phase décisive dans la bataille contre l'antisémitisme. Prenez par exemple ce que vous avez dit sur Auschwitz. Le Carmel d'Auschwitz. On dit toujours le Carmel d'Auschwitz, ça montre que les Polonais ne voulaient pas reconnaître cette question. Mais ce qu'a montré ce débat, qui a duré plusieurs années, c'est justement que ça fait prendre conscience aux Polonais de la réalité d'Auschwitz, alors qu'on leur a peint pendant 25 ans ce camp de concentration comme étant un camp de concentration où on avait martyrisé des Polonais.
C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire aussi que
c'était un changement dans le.
Il faut dire aussi que l'actuel directeur du musée d'Auschwitz, Piotr Siwiński, est menacé d'une façon ignoble.
Il y a en tout cas eu une certitude dans ces différents phénomènes que l'on observe, à la fois l'antisémitisme polonais d'avant-guerre, la manière dont aujourd'hui les Juifs en France vivent bien ou mal leur situation, puisqu'un certain nombre considèrent aujourd'hui qu'ils doivent déménager, considèrent que la situation qui est la leur en France n'est plus viable à long terme. On voit qu'on a une pluralité de phénomènes et que l'antisémitisme est un mot unique pour désigner des phénomènes très divers, Annette Wiewiórka. Si on essaye de faire un peu l'histoire de cette haine, on s'aperçoit qu'il y a une grande diversité de phénomènes.
Absolument. Ce que je crains, puisque c'est une coagulation des antisémitismes. C'est-à-dire que pour le moment, il y a cet antisémitisme lié au nationalisme, lié aussi, il faut bien le dire, à une certaine forme de catholicisme. Et c'est ce que Vatican II avait souhaité...
Gommer,
puisque
en supprimant un certain nombre de prières.
Voilà, puisque
anti-juifs.
Un mouvement très largement dû à l'historien Jules Isaac avait pointé les responsabilités du christianisme dans la Shoah avec ces deux ouvrages, Jésus, Israël et l'enseignement du mépris. Donc il y a tous ces antisémitismes divers qui sont pour certains d'entre eux, bon, de toutes les façons, très déplaisants pour les juifs, ça c'est sûr, mais qui ont pris une forme meurtrière avec les attentats. Donc c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que on peut supporter, on n'a pas besoin d'être aimé, mais c'est difficile de penser que la vie est menacée.
Oui, je voudrais dire deux choses sur cette question. Première chose, c'est que dans le cas polonais, on arrive à des situations qui montrent que c'est comme quoi c'est paradoxal. Le père Rijdik, qui est la radio, disons, qui a une radio privée, qui est une radio qu'on souvent dit antisémite, qui est d'un nationalisme intégral, a été reçu par l'ambassadrice d'Israël en Pologne. Et il y a tout un travail de discussion et de séduction mutuelle, premièrement. Deuxièmement, la question qui est centrale en Pologne aujourd'hui, ce n'est pas l'antisémitisme au sens « est-ce que les Juifs sont nos ennemis ou pas ?» C'est la question de reconnaître ou pas que des Polonais, ou qu'une partie de la nation polonaise, que des institutions polonaises ou pas, ont participé ou ont été complices de la Shoah. Et ça, ils ne veulent pas le reconnaître, ils reviennent dessus. Et ça avait été reconnu par des présidents de la République antérieurement. Ils ne veulent pas le reconnaître et ils le remettent en cause.
On a un mouvement.
C'est un mouvement inverse. Et ça, c'est très important.
On a un mouvement qui est identique en France. C'est-à-dire cette question que je trouve pour ma part un peu surréaliste, de où était la France ? Et aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent non, la France, elle n'était pas à Vichy, la France, elle était à Birakeim, la France, elle était à Londres. Donc chacun peut choisir l'endroit où était la France.
C'est plus facile ceux de dire ça arrêtés, pour la France que pour la Pologne. Le premier ministre polonais a dit la Pologne n'existait pas.
Voilà, la Pologne n'existait pas.
Donc on n'a rien fait, on n'y est pour rien. Même en 68, on n'y est pour rien. La Pologne est réapparue. Probablement avec l'élection de Kaczynski, si j'exagère un petit peu, c'était ça leur idée. Mais c'est ce refus de ce qu'ils appellent la pédagogie de la honte. Et ça, c'est ça qui est essentiel.
Annette Gigiorca, tout à l'heure, vous avez prononcé, rappelé une boutade qui ne doit pas être mal comprise. Vous avez dit qu'on pouvait vivre, je crois, avec un niveau d'antisémitisme tant qu'il n'était pas exagéré. C'était une plaisanterie.
La boutade, c'était... Oui, absolument.
Ce que vous vouliez dire par là, c'est qu'en fait, si on essaye de prendre la haine anti-juive sur la longue période, puisque celle-ci a pour particularité d'être très ancienne, eh bien, on a, et c'est à mon avis essentiel de le faire, une distinction entre des préjugés anti-juifs, des stéréotypes anti-juifs, un passage à l'acte anti-juif. Si on prend par exemple l'histoire juive dans les pays musulmans, il y avait un statut des juifs qui était le statut d'immi, qui n'est pas un statut enviable puisque c'est un statut inférieur, mais qui est un statut qui organise la coexistence. Est-ce que là, il y a en quelque sorte une progression ? Est-ce qu'on peut considérer par exemple que ce à quoi on assiste, des préjugés anti-juifs importants, si on en croit par exemple l'enquête d'Ipsos que j'ai cité tout à l'heure, qui enquêtait chez certains musulmans et qui a trouvé des préjugés anti-juifs très forts, est-ce que là, on est face à un phénomène qui annonce, qui est précurseur de violence ?
Si vous me le permettez, je vais quand même reprendre un de vos termes, qui est la haine antisémite. C'est-à-dire que vous passez, on glisse de préjugés à la haine. Il y a quand même un... comme on disait dans le temps chez les marxistes, un saut qualitatif. On n'est pas... c'est pas la même chose. Je vais reprendre ce que dit Anne Sinclair. Ma foi, c'est banal. Des proches...
Tout à l'heure, quand on parlait...
Mais on va pas... Si quelqu'un disait je ne vais pas épouser un ouvrier, je ne pourrais pas être marié avec un ouvrier textile du Pakistan, on trouverait ça atroce et raciste. Mais le fait est quand même qu'il y a des formes d'endogamie et qu'on ne peut pas obliger les gens à aimer ce qui est tout à fait différent de son propre milieu.
Enfin, en tout cas, l'endogamie n'est pas quelque chose en soi...
L'endogamie n'est pas quelque chose de critiquable. C'est d'abord un fait sociologique. Voilà. Donc je pense qu'il faut faire très attention entre des préjugés qui existent, contre lesquels il faut lutter, et le passage à l'acte qui dit qu'il faut éradiquer l'État d'Israël, c'est ce que j'ai appelé l'antisionisme rédempteur, soit tuer des juifs et subsidiairement, je le rappelle quand même, des prêtres catholiques.
Et des policiers, enfin, on va pas rater la totalité des victimes. Parce que...
Donc je pense qu'il faut, quand on discute, bien être conscient que pas chaque fois pousser aux extrêmes, des situations qui sont beaucoup plus nuancées.
Non, mais si on prend l'endogamie juive et si celle-ci est critiquée, c'est parce que, en quelque sorte, l'une des vieilles thèses antisémites consiste à dire qu'il y a finalement une équivalence, que le racisme anti-juif répond au racisme des juifs eux-mêmes. Ça a été théorisé, rappelé par Hitler, et c'est de cette manière-là que cette chose peut être embarrassante.
Toutes les études montrent aujourd'hui que les mariages entre ou les compagnonnages entre juifs et non-juifs sont en progression.
Une dernière chose en ce qui concerne la Pologne, je crois que il faut effectivement faire cette nuance que donne Annette, parce que je pense qu'aujourd'hui en Pologne, il n'y a pas une politique anti-juive et les juifs ne sont pas aujourd'hui par l'État polonais menacés. Ils ne sont pas menacés. Il y a une
ça libération. Ça tombe bien, il
n'y en a plus. Non. Il y a des juifs. Il y a même une communauté juive qui est votée à moitié, presque à moitié-moitié pour le PiS.
Non,
et donc, il y a même une partie des organisations qui soutiennent le PiS.
Il y en a 6 000 aujourd'hui.
Il y a autour de 20-25 000, c'est plutôt le chiffre qu'on donne.
Je trouve ça extrêmement optimiste. Parce qu'il y a quand même...
Il n'y a pas d'acte anti-juif concret aujourd'hui en Pologne.
Anti-juif, mais la loi qui va peut-être être retirée, qui pénalise ceux qui...
Les chercheurs.
C'est une loi qui est aux franges. Et c'est une loi, donc c'est...
Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus, mais je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer la situation aujourd'hui en Pologne.
Merci Jean-Yves Potel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La fin de l'innocence, la Pologne face à son passé juif. C'est publié aux éditions Autrement. Merci Annette Wiewiórka. Le moment Eichmann, vous l'avez publié chez Albin Michel.
Dirigé par Sylvine Deperg.